Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous demande de bien vouloir me pardonner pour les grésillements difficilement supportables du téléphone portable lors de l'enregistrement de l'épisode précédent. C'était vraiment très désagréable, j'en conviens, mais Rachel est tellement passionnante que je vous recommande vivement de l'écouter quand même. Il y a deux, trois petits passages un peu difficiles, mais sur le reste, ça passe dans l'ensemble. Allez-y. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir de partager avec vous ma conversation avec Bernard Werber, que vous connaissez sans doute, au moins pour son roman Les Fourmis, qui l'ont fait connaître dans le monde entier. Avec plus de 30 millions de livres vendus à son actif, Bernard va partager avec nous ses méthodes de travail, son histoire, ses succès et ses échecs. Bernard est la première personne hors business que j'interviewe et j'en suis très fier. Si j'ai créé Génération Do It Yourself, c'est pour échanger avec des personnes qui se sont lancées au sens large du terme. Peu importe qu'ils soient entrepreneurs, sportifs ou artistes, mes invités ont décidé à un moment qu'ils allaient avancer dans la vie sans filer, en se lançant dans une aventure avec passion. Je pense qu'il y a beaucoup plus de points communs entre un romancier et un entrepreneur qu'on ne peut le croire. L'abnégation, l'organisation, la confiance en soi ou encore la rigueur qui font qu'on peut atteindre ou non ses objectifs. Vous le comprendrez, je l'espère, avec cet épisode de Génération Do It Yourself, durant lequel Bernard Werber nous livre un grand nombre de ses secrets. Je tiens également à remercier mon frère et associé Pierre Stéphanie, qui m'a permis de rencontrer notre invité du jour, et à lui dédicacer spécialement cet épisode pour ses 40 ans qu'il va avoir le 19 juin. Mon frère, tu me supportes depuis tout ce temps, et rien que pour ça, je t'aime. Sans plus attendre, je vous laisse donc écouter cet épisode de Génération Do It Yourself avec Bernard Werber et votre serviteur Mathieu Stéphanie. Bonjour Bernard, merci de m'accueillir aujourd'hui chez toi.
Bonjour.
Est-ce que je peux te demander de te présenter ?
Alors, je m'appelle Bernard Werber, je suis un humain qui vit sur la planète Terre. Là actuellement j'occupe mon cerveau à écrire des histoires qui est ma principale activité, donc on me connaît plutôt sous le terme de romancier. J'ai écrit 22 romans, le premier s'appelait Les Fourmis et le dernier s'appelait Demain les chats, et mon domaine de prédilection est la littérature d'imaginaire, du futur, littérature de prospective et le mélange entre la science et les histoires, et les contes. Et ce qui m'intéresse, c'est faire rêver les gens, et leur ouvrir des horizons, et leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas.
Et donc là, j'ai lu du coup Demain les chats, j'en ai lu quelques-uns aussi, on en parlera, que j'ai adoré, que j'ai dévoré en quelques jours. La différence entre ce que tu me décris à l'instant et ce qu'on va appeler la science-fiction,
oui.
C'est le fait que tu penses que ce que tu écris a quand même des chances de se réaliser, ou on sent dans les choses qu'on a pu lire, que j'ai pu lire chez toi. Alors certains, Le papillon des étoiles, peut-être que c'est beaucoup plus loin, mais voilà. mais je veux dire, dans Demain les chats par exemple, on sent une forme de proximité, quelque chose où on se dit c'est pas loin de potentiellement être réel, quoi.
Alors, Demain les chats, c'est la prospective, c'est-à-dire j'imagine ce qui pourrait arriver d'ici 10 ans.
D'accord.
Donc c'est pas les fusées, les extraterrestres, les machines à remonter le temps, donc c'est pas la science-fiction classique. Et du fait de ma formation de journaliste scientifique, j'essaie chaque fois que je donne une information de la prouver, de l'expliquer et d'utiliser le monde réel et non pas le monde imaginaire. Le terme exact pour définir mon travail actuellement que j'utilise, c'est philosophie fiction, parce que même si je parle de conquête des étoiles, même si je parle de nouvelles technologies, en fait je crois que le vrai enjeu, c'est le changement de philosophie. Il y a cette phrase fabuleuse de Rabelais qui est « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Je crois que ça sert à rien de mettre au point des ordinateurs extraordinaires si c'est pour asservir l'être humain. Je crois que ça ne sert à rien de conquérir les étoiles si c'est pour reproduire les méthodes ou les systèmes qui ont détruit notre planète. Il y a un moment, ce qui importe, la vraie aventure, c'est la, la prise de conscience. Et la prise de conscience, pour moi, c'est le domaine de la philosophie. Mais la philosophie reste souvent de l'ordre d'une sorte de travail intellectuel qui ne donne aucun résultat. Alors moi, c'est plutôt la philosophie en action. Partir pour coloniser notre planète ou prendre le point de vue d'une fourmi ou d'un chat, pour moi, c'est sortir du système humain normal pour mieux le comprendre. Donc, c'est juste une ouverture de perspective et d'horizon.
D'accord. Alors, on reviendra sur justement toute cette approche qui est peut-être un tronc commun, j'imagine, à tous tes romans. Avant ça, justement, je crois que tu as été journaliste, hein, c'est ça ?
Oui. J'ai pas fait que des choses bien dans ma vie.
C'est vrai.
J'ai été journaliste. En fait, ma formation, j'ai commencé par faire du droit pour m'apercevoir que le droit ne m'intéressait pas au moment où le professeur nous a dit, un des professeurs a dit, le droit va vous apprendre deux choses, à séduire et à tricher. Je me suis dit, waouh, c'est exactement les objectifs qui m'intéressent pas. Séduire et tricher, moi, ce qui m'intéresse, c'est la connaissance et la transmission de la connaissance. Donc j'ai fait
le fond versus la forme.
Voilà, j'ai dérivé doucement vers la criminologie, qui était du droit en action et non pas du droit juste du blabla et des livres à apprendre par cœur, mais tout d'un coup des personnages, des actes, des polars, tout ce qu'on voyait à la télévision expliqué techniquement avec l'analyse du sang, l'analyse du passage à l'acte, donc de la psychiatrie, de la chimie, c'était passionnant.
Et ça t'est venu parce que tu étais sur le droit et que tu t'es dit tiens, ça c'est une option, ou c'était quand même quelque chose, si tu y réfléchis, sans faire de psychanalyse de bas étage, qui venait de plus tôt? T'as toujours eu une passion pour ce genre de choses? Tu t'as été bercé dans différentes choses dans ton enfance ou...
Ça venait de l'écriture. J'avais commencé à écrire des enquêtes criminelles déjà. J'avais commencé à les écrire à l'âge de 9 ans.
D'accord.
Donc je faisais des petites enquêtes à façon Edgar Allan Poe à l'époque.
Que tu as toujours?
Oui, mais qui, je pense qu'ils ne passent pas le stade de la publication, de la diffusion.
Jamais elles ont été plus, personne ne les a lues.
Non, s'appelait, j'avais deux enquêteurs qui s'appelaient Ménard et Tarpin, qui enquêtaient, et en général, il y avait un élément qui faisait qu'on pouvait pas trouver qui était l'assassin, et c'est, j'utilisais des techniques de tour de magie.
D'accord.
Qui faisait que c'était impossible de le trouver, mais en même temps que c'était crédible.
D'accord.
Et donc, j'ai suivi ces cours de criminologie pendant 2 ans. En même temps, j'ai créé un journal, d'abord au lycée, puis après à l'université.
Qui était le journal du lycée, l'univers, pas le tien?
Alors au début, c'était le journal du lycée dont j'avais créé le club journal, donc ça s'appelait La Soupe à l'Ozène parce que mon lycée s'appelait Ozène.
D'accord.
Et après...
Donc ça, à Paris?
À Toulouse.
À Toulouse, d'accord.
Et alors pour l'anecdote, c'était un journal qui innovait dans un domaine, c'est que les histoires qui étaient racontées dedans étaient suivies de musique et de parfums. Donc pour chaque histoire, je mettais des musiques. À l'époque, c'était surtout Genesis, Yes et Pink Floyd. Et le parfum, je le fabriquais moi-même dans un laboratoire et j'avais été formé en parfumerie.
D'accord.
Et l'autre élément, c'est que pour faire ce journal, j'ai été formé aussi en imprimerie. Donc j'ai imprimé un offset, on était 3-4 en fait à faire ça.
Tu as été formé à quel âge là-dessus?
Donc j'avais 15 ans.
D'accord, et c'est toi qui es allé chercher cette formation?
C'est-à-dire, je m'ennuyais au lycée, donc j'ai proposé au directeur de créer un club journal, et il m'a dit, ça tombe bien, on a une machine offset qui a été achetée, qui n'a jamais servi, on peut vous payer des cours pour apprendre à l'utiliser. Donc on a ressorti la machine offset, j'ai reçu les cours, et après, vu que j'avais inventé ce concept d'histoire qui se lise avec des parfums, je suis allé voir à l'époque un industriel qui s'appelait Berdouze, qui était le spécialiste de l'odeur de violette à Toulouse.
D'accord.
Qui m'a offert une orgue à parfum. Et donc j'avais toutes les essences, ça vaut très très cher ça. Et je fabriquais des odeurs qui n'étaient pas forcément des odeurs agréables, mais qui correspondaient aux odeurs de mes histoires.
Mais donc il y avait quand même une forme de fibre... en tout cas de ce podcast, donc avec cherche à voir un peu les gens qui se laissent pas forcément porter, qui veulent faire les choses déjà au lycée, d'aller voir le proviseur, d'aller voir cet entrepreneur ou cette entreprise de film, de se dire je veux faire des choses. C'était de la découverte, de la curiosité, c'était de l'envie, c'était naturel, c'est tout.
je sais pas, je crois que tout le malheur vient de l'homme, disait Pascal, vient qu'il n'arrive pas à rester tranquille dans une pièce. Je suis le genre de type qui n'arrive pas à rester tranquille dans une pièce.
D'accord.
Le lycée ronronnant et j'avais pas de challenge, donc j'avais envie de faire un truc un peu dangereux, compliqué, qui m'oblige à me surpasser. Et j'ai trouvé ce journal, donc La Soupe à l'Ozène. Après, le journal est passé à un stade un peu plus professionnel. Donc c'est un journal de bande dessinée d'information du lycée, et après c'est devenu un vrai journal de bande dessinée dans l'esprit de Métal Hurlant.
D'accord.
Et il y avait des dessinateurs professionnels dedans et tout, et toujours avec les parfums. Et là, c'est quand j'ai...
Les parfums étaient...
À l'intérieur.
Imprégné le journal.
C'est-à-dire, avec un spray, on le mettait sur du papier, et le papier, on le mettait dans un cellophane, et le cellophane était scotché dedans. Tout ça fait à la main, et on arrivait à avoir 5000 exemplaires tirés, imprimés et vendus.
Ouais, c'était du boulot.
On vendait ça à 2,50 francs.
D'accord.
À l'époque, et l'essentiel de nos ventes était lié à une très jolie fille qui était à l'entrée du lycée, et personne n'osait lui refuser le journal.
D'accord.
Ce qui montre que c'était l'élément commercial peut tenir à très peu de choses.
Un peu de marketing, quoi. D'accord.
Et après, ça, vu que ça marchait bien dans notre lycée, on l'a vendu dans d'autres lycées. Et après, donc, je suis monté à Paris pour essayer de faire vivre ce projet. J'ai été sélectionné par l'association Jacques Douce, des meilleurs jeunes entrepreneurs. Et là, j'ai eu droit à des cours amenés par Pierre Lescure, Hersan, tous les patrons le patron de Publicis, le patron de Total, tous sont venus nous apprendre comme si on était les nouveaux leaders du monde.
Fantastique.
Et on était une vingtaine comme ça à avoir des projets. Donc j'ai pas été sélectionné au final. J'ai eu droit pendant 2 mois à des cours particuliers des plus grands patrons. Et après, quand je me suis renseigné pour créer le journal, j'ai vu qu'il fallait passer par les banques. Et les banques, j'ai compris que j'allais me faire avoir. Donc, j'ai laissé tomber ce projet. Je suis devenu journaliste freelance. Et là, j'ai assez facilement trouvé un boulot de journaliste scientifique au Nouvel Observateur, dans la mesure où personne ne veut être journaliste scientifique.
C'est ce que j'allais te poser, justement, parce que le journaliste, ou plus généralement le littéraire, a quand même... Pas toujours, mais souvent une aversion pour la science, les maths ou beaucoup de choses comme ça. Et ça, c'est quand même assez drôle comme combo. T'as le côté entrepreneur un peu business, le côté un peu science et le côté littéraire. C'est quand même assez.
Mais j'étais bon nulle part, mais je touchais à tout.
D'accord.
Même les parfums, je faisais des parfums, mais ils étaient pas très bons. Je faisais des histoires, ils étaient pas très bonnes. Je faisais un journal qui marchait, mais c'était pas des ventes extraordinaires. Mais par contre, tout ça m'a appris des domaines. Et même comme journaliste, je pense que j'étais pas spécialement un grand journaliste, un bon journaliste, mais c'est que j'aimais le terrain. C'est-à-dire, j'aimais aller voir les laboratoires, discuter avec les scientifiques, j'aimais me bouger le cul, comme on dit, et pas, parce que je voyais que mes collègues au Nouvel Observateur, ils recopiaient les dépêches AFP en changeant la première phrase et la dernière phrase. Je me rappelle mon chef, il me disait, qu'est-ce que tu te compliques la vie? Pourquoi tu vas interviewer les scientifiques? Regarde, tu prends la dépêche AFP, tu mets une question en première ligne, tu changes la fin, et puis ton talent, tu vas l'exprimer dans le titre. Et le titre, ça va faire que les gens le lisent.
Ce qui marche très bien sur les réseaux sociaux, en tout cas.
Bah oui. Il me dit, les gens, ce qu'ils vont retenir, c'est la photo avec la légende, ton titre, et pour ceux qui lisent l'article, ça va être la chute. Donc, te complique pas la vie à aller voir le laboratoire. Et moi, j'ai dit, écoute, je suis pervers, j'ai envie de voir le laboratoire, en fait. Donc, j'utilise le prétexte d'être journaliste, parce que j'ai envie de rencontrer les scientifiques, j'ai envie de voir le laboratoire, et à la limite, s'il peut me montrer l'expérience, ça m'intéresserait.
C'est ce que me permet ce blog en venant ici ce soir.
Ben voilà.
Donc je suis ravi, tu vois. Mais c'est aussi, je pense, il y a un côté que je trouve assez propre à l'entrepreneur aussi. C'est le côté pas forcément gifted, comme diraient nos amis anglais, donc pas forcément inné, de se dire j'avais pas forcément ce talent, mais en travaillant, on arrive à acquérir quand même un certain nombre de choses. Parce que quand c'est pas inné, peut-être que à force de faire ces interviews, de voir ces gens, tu progressais, tu devenais meilleur. Enfin,
mais
forcément.
Dans mon esprit, c'est le terme vulgarisation scientifique. Le mot est affreux, vulgarisation, ça fait penser à vulgaire. Ça veut juste dire pour moi transmettre la science qui est dans les laboratoires tenus par les types en blouson blanche au grand public. Donc, quand j'écrivais, j'essayais d'être le plus clair possible, le plus didactique, trouver des symboles, des métaphores, des énigmes pour que tout devienne accepté comme un jeu.
D'accord.
Qu'il n'y ait pas l'article scientifique tenu par le type pontifiant. Et d'ailleurs, on était 3 journalistes à tenir la rubrique. Donc, il y avait mon chef direct, plus un autre. Il y avait un autre, il écrivait de manière incompréhensible. Et plus il écrivait des mots compliqués, des phrases compliquées, plus les gens trouvaient que c'était de la vraie science. Parce que pour eux, la science, c'est forcément incompréhensible. Et moi, vu que je me donnais beaucoup de mal pour être très clair et d'être compréhensible par tous, tout ce que j'écrivais avait l'air suspect. Je disais, attends, t'es sûr que c'est vrai, là, parce qu'on comprend tout. Donc, dans l'idée, en France, c'est la science est faite par des scientifiques, c'est compliqué et on ne peut rien y comprendre. Et si on leur dit, attendez, on va vous expliquer que ça marche, il y a un aimant à l'intérieur qui tire sur une petite machin et il y a une ficelle et c'est pour ça que ça fonctionne, pour eux c'est, oh là, il nous dit les trucs, donc c'est pas un vrai magicien.
J'ai eu une expérience récente avec quelqu'un qui me... Enfin, j'essayais de lui faire expliquer ou de reformuler ce que je comprenais sur la différence entre le deep learning et le machine learning. Et qui était quelqu'un plutôt de scientifique et qui m'a dit non mais moi je suis pas là et je peux pas t'expliquer ça en mélangeant des cochons et des poulets quoi. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que justement si on veut comprendre ce qu'ils font mieux et se projeter quelque part, il y a un moment où quand on n'est pas scientifique et que je peux pas forcément aller ultra loin dans même si je pense en connaître une petite partie, il y a quand même un moment où on a besoin de comprendre cette forme de vulgarisation ou d'évangélisation.
Il est essentiel de diffuser la science parce que si vous renoncez à comprendre la science, vous allez la subir. Mmh. Celui qui refuse l'aventure technologique va se retrouver avec son ordinateur en panne, son téléphone en panne, en train de se dire « Ah là là, il y a que des scientifiques qui peuvent m'aider ».
C'est un élément qui revient dans ce dernier roman, sur justement les religieux qui suppriment les scientifiques par ce déficit potentiel de compréhension dont demain l'échappe. Peut-être.
Il y a des gens qui veulent à tout prix garder la connaissance pour eux, et garder le public dans l'ignorance. Les religions, notamment les religions les plus fanatiques, veulent que les gens soient le plus bêtes possible pour pouvoir les manipuler, pour en faire des soldats.
D'accord.
Dès le moment où les gens deviennent intelligents, se mettent à réfléchir, à se poser des questions et que le débat est ouvert, les dictatures et les fanatismes ne peuvent plus fonctionner. Ça marche ?
Oui, ça marche, très bien.
Parce que t'appuies sur le bouton qui me sert à rebooter. Alors
je viens de faire une petite manipulation sur mon ordinateur. Du coup, voilà, mais je voulais revoir mes notes.
D'accord. La connaissance est un énorme enjeu. Et pour revenir à tout à l'heure, je voudrais rajouter une chose.
Oui.
Au lycée, il y a cette séparation entre les journalistes, entre...
Les lycéens, non. Les étudiants.
Je vais revenir. Tu peux recouper ?
Non, mais on coupera pas. Mais c'est pas là. C'est pas grave. Il y a façon, vraiment, il y a un gros problème.
Alors, je vais dire que au lycée, il y a cette séparation qui se fait en troisième entre section littéraire et section scientifique, qui entraîne un schisme dans la communauté des élèves, à savoir que les scientifiques, c'est-à-dire ceux qui sont bons en maths, se disent les autres c'est des crétins, et c'est pour ça qu'ils font la section littéraire, donc c'est des losers. Ils ont un certain mépris, donc le mépris des scientifiques envers les littéraires. Mmh. Et les littéraires, voyant que les scientifiques, les matheux les méprisent, ils disent prennent pour qui ceux-là, de toute façon, nous on est des poètes, ils peuvent rien y comprendre.
Des cérébraux, oui.
Voilà.
Oui, oui.
Et à partir de là, il y a une sorte de haine qui est posée, ou de mépris, ou de méfiance, entre les deux clubs, ceux qui défendent le cerveau gauche et ceux qui défendent le cerveau droit, ceux qui défendent la poésie et ceux qui défendent les mathématiques, les chiffres et les lettres. Et c'est terrible parce que moi je me rappelle quand j'étais journaliste au Nouvel Observateur, il y avait un collègue qui était grand reporter à l'étranger qui me dit « Tu sais, moi je lis pas les articles scientifiques parce que la science c'est pas mon truc ». Je fais, mais tu utilises quoi pour faire tes interviews? Tu utilises un magnétophone? C'est de la science? Il y a un électro-aimant à l'intérieur. C'est grâce à ça que tu t'es jamais posé la question comment marchait un micro? Je fais, quand tu voyages, t'es jamais demandé pourquoi l'avion restait en l'air? Quand tu ouvres un réfrigérateur, tu t'es jamais demandé comment était produit le froid? Si tu te poses pas de questions, a priori, t'es pas un vrai journaliste. Tout journaliste doit se demander le monde qui est autour de lui et pas uniquement est-ce que le politicien actuel va être réélu ou est-ce que il y a une guerre entre tel ou tel. C'est vraiment une limitation d'esprit. Moi, je peux m'intéresser aussi bien à ce qui se passe en politique étrangère que à ce qui se passe à l'intérieur de mon ordinateur ou de mon réfrigérateur.
Dans les étoiles ou
voilà.
Dans une fourmilière. Ouais, non.
Et quand j'ai été viré parce que j'ai fini au bout de 7 ans de bons et loyaux services de l'Observateur, être viré parce que je m'étais présenté au prix du meilleur journaliste de France et que ça avait agacé mes chefs au point où l'un d'entre eux a demandé ma tête et il s'est monté un complot. J'ai rencontré le directeur du Nouvel Obs qui m'a dit, vous savez, je ne savais même pas que vous étiez dans ce journal alors que j'avais mon bureau, il y avait mon nom dans l'ours du journal. Il me dit, mais pour nous ensemble, c'est que je ne m'intéresse pas à la science. le directeur du journal.
Sympa.
Et je lui dis, alors, si vous intéressez pas à la science, vous devez pas lire, on doit bien faire 4 couvertures sur 10 entre le mal au dos, le cholestérol, la sexualité, les origines de l'humanité ou le sida à l'époque, donc j'ai couvert le sida, on faisait les couvertures au journal. Ça veut dire, vous lisez pas votre propre journal. Il me dit, je suis désolé, la science, j'y arrive pas, ça m'intéresse pas. Et quand vous avez le chef d'un journal qui en est là, vous comprenez qu'en tant que nouvel observateur, il n'observait rien de nouveau, puisqu'il était tourné, comme il m'a dit, ce qui m'intéresse, c'est la politique, le cinéma, la culture et les livres. Voilà. Et quand on voyait la rubrique livres, on comprenait qu'en fait, c'était que les livres de ses copains. Donc, je crois que j'ai bien fait de quitter l'Obs, parce que c'était en fait un lieu fermé, dans lequel il n'y avait pas de possibilité de faire bouger les choses, parce qu'il vivait sur un système ancien et sclérosé.
Et alors c'est intéressant pour rebondir là-dessus, de voir qu'aujourd'hui en fait les personnes qui peuvent avoir cette position sont quand même rattrapées de manière intense, parce que la science, la technologie en particulier, l'évolution aussi rapide de tous les tracking, de tous les suivis, de tout fait quand même, si on s'intéresse pas du tout, on est soit vite largué, soit potentiellement vite.
Non, parce qu'ils ont tout verrouillé, les mécanismes de pouvoir pour, avec la politique, arriver à compenser leurs déficits technologiques. D'ailleurs, regardez, il y a très peu de scientifiques dans les gouvernements.
C'est vrai.
Et l'autre élément, c'est que mes deux collègues scientifiques en observateur étaient des scientifiques qui avaient échoué. C'est-à-dire, ils faisaient du journalisme faute de ne pas pouvoir continuer dans la science. Et j'ai fait une école de journalisme, et il n'y avait aucun élève de l'école de journalisme qui voulait être scientifique, journaliste scientifique. C'est comme si la fonction journaliste scientifique n'existait pas. Et être à cheval entre les deux, c'était une position difficile à tenir, parce que on considérait qu'on n'était pas un vrai c'est-à-dire être journaliste scientifique, c'est comme si on n'était pas un vrai journaliste. Et voilà. Mais en même temps, ça m'a donné envie de faire ce travail de vulgarisation. Et après avoir été viré d'une voile observateur, je crois que je suis un des rares à avoir été viré d'une voile observateur d'ailleurs. Il y avait la zone cause de licenciement, elle était vide. J'ai dit, ah bon, vous pouvez laisser vide? Il fait, écoutez, franchement, on n'a rien à vous reprocher. On vous reproche de vous être présenté au prix, donc c'était la fondation Moom, et d'avoir attiré l'agacement de vos collègues qui n'ont pas été sélectionnés. Donc, on va dire, inadaptation au système Nouvel Observateur. Je reconnais que je suis inadapté à un système qui vise à ne reproduire que des schémas anciens. D'ailleurs, je me rappelle même pour la science, je profite pour balancer, parce que c'était quand même il y a longtemps,
je pense que
les journalistes n'y sont plus, ils remettaient le même article d'une année à l'autre. Par exemple, on avait un article sur les régimes de l'été. C'est des régimes de l'été, donc avant que les gens aillent mettre leur maillot pour qu'ils aient l'air beaux. Je me rappelle, il y avait des articles d'une année à l'autre, c'était le même. On changeait la photo, on changeait le titre, on changeait la première phrase, la dernière phrase. Personne n'y voyait que du feu.
La fameuse couverture sur les francs-maçons ou toutes ces choses.
Alors les francs-maçons, je sais pas.
Surprenez, non, mais je veux dire.
Je sais pas si surprenez, mais en général, c'était le même qui leur faisait. Donc il réutilisait sa doc d'un truc à l'autre.
Et donc tu t'es fait virer de ton premier boulot.
Je me suis fait virer de mon premier boulot.
Ton seul boulot employé, en tant qu'employé.
En tout cas, mon seul boulot d'employé qui a duré 7 ans.
Ouais.
Où j'avais mon bureau, où j'avais un statut, parce qu'à l'époque, d'abord il faut voir, quand je suis rentré au Nouvel Obs, j'avais 23 ans et le plus jeune journaliste avait 40 ans. Donc j'étais vraiment le petit jeuneau. C'est pour ça aussi qu'ils ont mal perçu que le petit jeuneau se présente au prix du meilleur journaliste Moom et soit sélectionné. Ça a vraiment pas plu.
D'accord.
En plus, j'avais le soutien de Françoise Giroud à l'époque, qui avait trouvé mon article sur Singapour. Parce que je parlais de Singapour, j'étais allé à Singapour.
D'accord.
Et j'expliquais que Singapour était en train de nous montrer une voie d'évolution du futur. J'appelais ça la ville ordinateur, la ville conçue comme un ordinateur. Et c'est cet article qui avait été sélectionné. Et Françoise Giroud m'avait dit, c'est extraordinaire. Et donc, on avait discuté. Elle m'a dit, quoi, mais vous avez un statut titularisé. Je vais me débrouiller pour que vous soyez titularisé. Et en même temps, mon chef direct m'a dit, attends, t'as agacé le 3 chefs, parce qu'ils sont tous chefs là-bas, qui voulaient avoir ce prix, t'as été sélectionné, ils comprennent pas comment tu as osé même te présenter. Donc, il y a ce complot contre toi. Un peu plus tard, quand j'ai écrit Les Fourmis, j'ai trouvé une loi qui s'appelait la loi de Parkinson, qui dit qu'une entreprise, plus elle grandit, a intérêt de se débarrasser de ses éléments jeunes, dynamiques, sous-payés, pour les remplacer par des éléments surpayés qui vont rien proposer de nouveau. Et ce pourquoi ? Parce que une personne sous-payée qui fait un travail répétitif et comme les autres stabilise l'entreprise, alors qu'un jeune qui lance des idées et qui veut faire bouger les choses, en plus qui est sous-payé, va forcément à un moment vouloir bouger de place, qui était mon cas, je voulais bouger de place, et donc créer du trouble au sein de l'entreprise. Et ils ont fait un truc extraordinaire quand j'ai été viré, c'est qu'ils m'ont remplacé par un journaliste qui a eu 3 fois mon salaire, D'accord. mais surtout qui a fait un truc extraordinaire auquel j'ai pas pensé, c'est ne rien foutre. Et moi, je rendais toutes les semaines ma page science, plus un article un peu plus important, j'allais dire tous les 15 jours.
D'accord.
Et lui, j'ai vu, il est arrivé, donc il a exigé un salaire très important, la titularisation, que j'ai jamais eue. Et après, il s'est mis à dire, attendez, moi je fais pas comme Werber, je fais pas les enquêtes sur 15 jours, j'ai besoin de temps. Et il rendait un article tous les 6 mois. Et il restait chez lui.
La titularisation, c'est quoi exactement?
C'est titularisation, c'est-à-dire qu'un contrat
C'est plus qu'un CDI, c'est
ouais, un
CCI, d'accord.
CDI, c'est le CDI, c'est vrai. j'ai pas utilisé le bon terme. J'avais un statut de pigiste permanent.
D'accord.
Ce qui était le statut qu'on offrait à l'époque à tous les jeunes journalistes. Il m'avait donné l'explication, il m'avait dit, il y a eu tellement d'abus de l'ancienne génération que maintenant la nouvelle génération doit payer pour l'abus.
D'accord,
et je crois que ça se reproduit dans beaucoup de domaines. Donc, il y avait plein de journalistes qui foutaient rien, qui avaient des salaires exorbitants. Donc, du coup, nous qui travaillons, on avait un statut de précaire. Mais il y avait l'idée aussi qu'on puisse nous virer facilement. Enfin, plus facilement que si on avait un CDI. Vu qu'il y en avait qui avaient abusé, on était tenus à l'écart. C'était l'armée mexicaine. On devait être 120 journalistes à l'époque. Et sur les 120 journalistes, il y en avait 20 qui bossaient et une centaine qui foutaient rien.
Ça a beaucoup changé, hein, je dois te dire. Mais connaître un peu
Je pense. Aujourd'hui, oui, alors, j'étais viré en 90. Hein.
Oui, d'accord.
Donc, c'était il y a 27 ans. Je pense en effet que ça a changé. Mais je pense que les vieux éditorialistes, là, ils sont toujours.
Ce qui a changé aussi, c'est que le papier a moins de poids aujourd'hui. Donc, ça, c'est vrai que il garde un poids très politique, mais c'est vrai que la technologie a changé beaucoup de choses dans ces toutes dernières années, dans le sens où l'audience se fait quand même beaucoup plus
tout à fait
ailleurs. Donc,
et alors, je vais vous raconter une autre petite anecdote sur Nouvelle Ops. Un jour, Pierre Driel, le patron, nous a dit on allait passer aux ordinateurs. Alors les ordinateurs, pour l'instant, il y avait les 3 journalistes scientifiques, il y en avait, parce que l'ordinateur, ça avait l'air une machine de scientifique.
Bien sûr.
Et quand on a dit que tout le monde allait avoir un ordinateur, ils sont mis en grève, les journalistes, dans le style, nous, les purs esprits littéraires, il est hors de question qu'on commence à tripoter ces machines pour scientifiques. Et donc, il y a eu finalement une sorte de négociation où ils ont dit, OK, les journalistes n'auront pas à toucher les ordinateurs, on va utiliser des secrétaires qui feront la saisie des textes qu'ils vont dicter. Et c'est comme ça qu'ils ont accepté d'avoir des ordinateurs. Et dès que les ordinateurs ont commencé à se diffuser, parce que des fois, les secrétaires n'étaient pas tout le temps dispo pour faire la saisie, ils sont tous venus vers moi et fait « Bernard, j'ai perdu mon fichier. Bernard, tu peux me retrouver ? Ah Bernard, je crois que j'ai un virus. Ouais, » voilà. Et donc là, tout d'un coup, j'ai pris de l'importance en tant que détenteur d'une connaissance qui leur posait des problèmes.
Dans tous les métiers, je dirais qu'il y a eu, mais dans les journalistes, ces métiers de rédaction que je connais bien, des changements, même au moment du passage à l'Internet, pour être exact, le fait d'avoir ces articles en ligne, ça posait beaucoup de problèmes. Le fait d'avoir des gens qui commentent les articles d'un journaliste,
c'est évidemment dramatique
pour certains. Et puis le fait, alors après, d'avoir des notions d'audience, parce que on sait si un article marche ou pas, s'il est partagé ou pas, combien de personnes le lisent ou pas, si en fait le journaliste scientifique peut être intéressant ou pas. Tout ça, c'est vrai que ça a changé pas mal de choses. C'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup aujourd'hui. Et donc après tout ça, tu as écrit Les Fourmis. C'est ça?
Alors oui, j'ai terminé. J'ai profité de cette année de chômage. Je continuais à écrire un peu des articles par-ci par-là, notamment pour VSD. Mais j'ai profité de cette année de chômage pour terminer l'écriture des Fourmis. Et alors là, rentre un élément très important dans ma carrière, la chance.
D'accord, la chance. Mais quand tu dis terminé, ça a été commencé des années
c'était,
avant.
C'était oui, j'ai commencé à 16 ans, je l'ai fini à 28 ans.
D'accord.
Ça faisait 6 ans que j'ai cherché un éditeur et j'ai eu la chance de tomber sur un bon éditeur.
Qui était ?
Albin Michel.
D'accord.
Et Albin Michel a cru tout de suite dans le livre, plus que moi. Moi, je voulais être juste publié. Albin Michel voulait en faire un best-seller.
D'accord.
Et là, donc, j'avais réellement la poussée d'un éditeur puissant derrière moi. Le sujet, les fourmis paraissant complètement, peu commercial, c'est devenu une sorte de challenge pour mon éditeur. Ok, c'est un truc pas commercial, mais malgré tout, on va tout faire pour que ça marche. Ça a surpris même les gens au sein d'Albin Michel qui disaient, mais pourquoi ils en font des efforts pour un livre sur les fourmis? Ça devrait être un truc de biologie et tout. Et peu à peu, le bouche à oreille a pu s'installer. J'ai eu très peu de médias. J'ai eu qu'un seul média, en fait. J'ai eu Bernard Rapp, qui m'a invité. J'ai dû passer, en plus, à 1h30 du matin.
D'accord, un peu ici.
Ça a suffi, parce que Bernard Rapp avait lu le livre et a transmis son enthousiasme, encore un coup de chance. Et il a lu un passage du livre. Et le lendemain, on était en rupture de stock.
D'accord.
Après, la rupture de stock a créé une curiosité. Et le livre a vraiment décollé. Il a pas été numéro un des trucs. Il a fait 20 000 exemplaires, ce qui actuellement est un petit décollage.
Oui.
Mais par contre, quand j'ai fait la suite, Le Jour des Fourmis, là, le livre est monté très très haut. Il a commencé à apparaître dans la liste de best-sellers et monté très haut dans les ventes. Et entre temps, le Poche a commencé à diffuser, le bouche à oreille a pu se diffuser plus largement.
Au livre de Poche, d'accord.
Voilà. Et à partir de là, je me suis fixé une règle, c'est tous les 1er octobre, je sors un roman.
D'accord.
Et cette règle m'a imposé, en fait, un travail que je pratiquais déjà, c'est-à-dire un travail régulier qui est tous les matins de 8h à 12h30. Quoi qu'il arrive, j'écris. Pas de vacances, pas de temps mort. Depuis l'âge de 16 ans, j'avais déjà posé cette règle. Mais là, j'en profitais pleinement.
De 8h à 12h30, tu écris.
J'écris. Et
tous les jours, du samedi au dimanche inclus.
Voilà.
Oui.
Et je fais 10 pages. Tous les jours. J'ai pas dit 10 pages de qualité, c'est pas 10 pages prêtes à être publiées, c'est 10 pages.
D'accord.
En général, c'est 10 pages de mauvaise qualité. Mais une fois que j'ai terminé tout mon manuscrit, qui fait en général 400 pages, je recommence tout à zéro sans me relire.
D'accord.
Et à nouveau, je fais 10 pages. Mais là, ça va être un peu mieux. Tout simplement parce qu'il y a déjà une version. Et pour moi, un roman, c'est 20 fois 400 pages, donc 20 versions. Le dernier, dans Demain les chats, il y a 20 versions de Demain les chats, avec d'autres intrigues, d'autres personnages, même d'autres contextes autour. Et ces 20 versions existent. Et là, j'ai sélectionné celle qui me semblait la meilleure.
Alors ça, c'est hyper intéressant parce que j'ai entendu Paulo Coelho qui a une, je pense, une approche un peu similaire. Il y a un peu plus tôt, je crois, le matin, mais ça change pas grand chose. Il y en a qui doivent pouvoir écrire le soir, et puis il y a aussi des écrivains qui font du binge writing, c'est ça, qui vont écrire une fois tous les 2 mois pendant 3 semaines ou pendant 2 semaines à fond d'un seul coup. Moi, ça me fascine pas mal cette régularité. Et ça te plaît tous les jours? Ça te plaît ou il y a des matins ça t'emmerde?
Non seulement ça me plaît, mais si j'étais seul sur une île déserte, sans imprimeur, sans éditeur, sans lecteur, j'écrirais. Parce que c'est une habitude, c'est comme une abeille qui fait du miel, c'est ma fonction, je le fais bien, j'ai des muscles dans le cerveau faits pour sortir des histoires, des personnages, des fins étonnantes et des mondes un peu cinématographiques. Et quand je le fais, je me sens, le terme c'est me réaliser,
oui.
C'est ce que je souhaite à tout le monde dans son boulot, qu'il trouve l'endroit où il se réalise. Il n'y a pas d'effort. Il m'arrive en écrivant de rire de joie de la situation que je viens de décrire. Et je crois que c'est parce qu'un créatif est dans le plaisir que la personne qui va recevoir l'œuvre ou le produit va être dans le plaisir aussi. Je ne crois pas à l'écrivain qui souffre, ou alors je pense que l'écrivain qui souffre va entraîner le lecteur qui souffre, et dans ce cas, c'est du masochisme partout. Et j'en vois dans ce qui est présenté dans les émissions littéraires, on voit ceux qui vous expliquent que c'est une torture pour décrire, et moi j'ai pas du tout envie de lire leur livre. Mais mes maîtres en écriture sont des joyeux du plaisir d'écrire. C'est Stephen King, c'est Frédéric Dard, c'est Simenon, c'est des gens qui sont dans le plaisir. Et pour moi, écrire et lire sont deux sources de plaisir.
Et donc, du coup, quand tu écris comme ça, aujourd'hui, les outils que tu utilises, tu parlais de manuscrits, tu écris à la main
Non. Alors, j'ai la chance, vu que j'étais dans une école économique, j'ai pris les cours de dactylo qui m'a appris à taper avec les 10 doigts très vite.
D'accord.
On faisait des concours avec des chronomètres pour aller de plus en plus vite. Donc, au fur et à mesure que je pense, j'écris.
J'en ai parlé aujourd'hui en interne à me dire que, à remarquer que même dans une agence comme Cosa Vostra, qui est l'agence dans laquelle je travaille, beaucoup de gens travaillent avec deux doigts de chaque main, donc 4 doigts. Mais même moi, j'écris assez vite, mais je crois pas en utiliser beaucoup plus que 4, en fait.
Ça mérite l'un des conseils que je donne aux écrivains, c'est de prendre des cours de dactylo.
Oui.
Ça a l'air un truc de secrétaire, il peut y avoir des gens qui ont du mépris, mais ça mérite de faire un effort parce que plus on tape vite, plus la pensée est fluide. L'écriture lente, avec un doigt ou deux doigts, tac, 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 ça fait que votre pensée est ralentie. Là, je sais, je peux aller vite, je peux aller lentement, mais c'est moi qui choisis. Par contre, je ne serai pas freiné par le contact avec les touches. D'ailleurs, j'apprécie énormément les nouveaux ordinateurs qui ont des touches souples, parce que je me rappelle quand j'ai appris à taper à la machine, c'était encore sur des machines mécaniques,
oui.
Et il fallait vraiment muscler le doigt pour taper et qu'il y ait une frappe nette. Et j'ai vu arriver d'abord les machines électroniques, les IBM à boules, et puis après j'ai vu arriver les premiers traitements de texte. Et chaque fois, dès que la machine apparaissait, j'achetais. Tout le temps, depuis que je suis jeune, toutes mes économies passent dans l'achat d'ordinateurs, de machines à écrire et d'objets me permettant de diffuser ma pensée sous forme de livre.
Tu dois en faire un paquet maintenant d'ordinateurs. Alors.
Oui, et c'est un gros budget parce que je prends toujours l'appareil le plus performant, donc souvent les derniers Mac, avec le maximum de mémoire, le maximum d'options. Et vu que je vais travailler dessus, je mets pas d'argent dans une voiture, je mets mon argent dans l'ordinateur.
Et ça, tu le fais aussi sur le logiciel? Je veux dire, est-ce que tu utilises toujours un vieux Word ou t'es passé sur un Evernote?
Non, je suis sur les nouveaux Word, mais Word, c'est une déception. C'est une déception amoureuse. J'aurais aimé ce logiciel et malheureusement, il me déçoit tout le temps. Il est rempli de bugs. Il fonctionne pas et vu que je l'utilise à fond, je vois tout ce qui marche pas dans ce logiciel. Malheureusement, vu que tout le monde utilise Word, je peux pas passer à un autre.
Non? T'as jamais essayé?
Evernote?
Oui.
Ah non, alors je vais te répondre à une question. Ce qui me plaît dans Word, c'est la fonction plan.
Oui.
Y a très peu de gens qui utilisent la fonction plan. Quand vous faites affichage, vous voyez qu'il y a écrit brouillon, page, je sais plus ce qu'il y a comme autre mode, il y a un autre mode, et il y a plan.
Oui.
Une fois que vous avez découvert plan, ça fait acte 1, chapitre 1, texte, note, sous-note. Donc j'ai une hiérarchie de mes textes et je zoome et je dézoome dans mon texte. Et ça introduit une nouvelle manière d'écrire. Parce que je fais ça un peu comme un film. C'est-à-dire tous mes chapitres forment comme des séquences.
D'accord.
Et après je fais du montage. Je peux déplacer un chapitre du milieu au début. Je teste pour voir comment ça fonctionne. Donc je n'utilise pas... c'est pas pensé sur une linéarité... c'est pensé comme une sorte de base de travail sur lequel je vais après
c'est
retravailler.
C'est Pulp Fiction après avec
voilà, exactement.
Complètement à l'envers, les scènes qui sont inversées.
Exactement.
Dans le temps,
ouais. Le premier montage numérique étant Pulp Fiction, moi j'utilisais le montage numérique en écriture depuis longtemps. Et ce montage numérique, justement, c'est aussi pour ça que j'utilisais le Mac, parce qu'à un moment il y avait un programme qui s'appelait Plan, qui permettait d'écrire en mode plan. Et maintenant, ce mode plan est intégré à Word, et j'utilise à fond. Seulement, je pense qu'on n'est pas très nombreux à l'utiliser, ce qui fait que quand je veux passer du mode plan au mode normal, parce que mon éditrice n'utilise pas le mode plan, personne n'utilise le mode plan, c'est rempli, je perds mes mises en forme, ça me rajoute des pages, des sauts de pages, ça me fait perdre, la fonction orthographe ne marche plus, voilà, donc c'est un enfer.
Et du coup, Tu crois alors aujourd'hui quand tu utilises tout ça tu bosses de 8h à midi et demi et après tu dirais parce que en fait ça je reviens revenir à l'outil mais tu dirais que tu bosses plus est-ce que tu utilises ton téléphone pour prendre des notes
oui.
Est-ce que tu regardes tu
oui.
balades dans la rue tu vois un truc tu penses à quelque chose
oui.
tu le notes tout de suite sur quoi alors
sur
Word,
Evernote
hein sur Evernote d'accord Evernote
c'est
et ça sert à autre chose
pour moi Evernote c'est l'endroit où je prends les notes je commence le matin au réveil par noter mon rêve et je le note sur Evernote
et il y en a tous les matins
oui. Et parce que ça, c'est un muscle pareil qui s'entretient.
Ah oui, oui je confirme. Moi, j'ai l'impression de rarement rêver. Enfin,
Mais le matin, on a l'impression qu'il y a un petit oiseau qui est le rêve. Il faut lui attraper la queue.
D'accord.
Et la première fois, on n'y arrive pas. Et puis après, on lui rattrape des plumes. Et plus ça va, plus on attrape de plumes, et à un moment, on attrape l'oiseau.
Et l'oiseau, c'est le rêve. Tu mets combien de temps à le noter, l'oiseau? Enfin, c'est trois lignes ou c'est...
Ça dépend. Ce matin, par exemple, j'ai rêvé d'une baleine échouée et on venait, et j'arrivais vers cette baleine échouée, je me disais, est-ce qu'elle l'a fait exprès ou est-ce que c'est un accident? Et si c'est un accident, est-ce que je peux la remettre à l'eau? Et il y avait en arrière-fond en musique, You Are in the Army Now de Status Quo. Voilà, c'était ce que j'ai noté dans Evernote du rêve de ce matin.
Et ce rêve te sert de temps en temps dans tes romans?
Mes rêves?
Ouais, enfin c'est vrai.
Oui, parce que des fois le soir avant de me coucher, je rêve de la scène que je dois écrire le lendemain, et donc je la rêve.
D'accord.
Et après je la note, vu que je m'en souviens. Et je m'aperçois souvent que mon inconscient, donc qui me fait des rêves, trouve des solutions que mon conscient n'oserait pas faire.
Et tu es le seul à avoir accès à ces notes?
Oh, ça me gêne pas de les présenter, mais je crois que ça intéresserait pas grand monde.
Hein. D'accord.
Non, des baleines échouées avec ce...
j'ai interrogé un entrepreneur, Simon Avelat, qui me disait que lui, il prenait dans sa mécanique quotidienne, dans ses habitudes, justement des notes au quotidien sur Evernote, pareil, et qu'il, que pour lui, c'était vraiment quelque chose de très important, mais qu'en revanche, il donnerait jamais accès à ce truc-là.
Ah non, je suis pas secret. Je donne accès à tout. Je crois que c'est comprenne qui pourra et s'intéresse qui a la curiosité. De toute façon, on peut donner toutes les connaissances à tout le monde. Ceux qui veulent pas comprendre comprendront pas, et ceux qui sont capables de comprendre vont le saisir et le faire vivre.
Oui.
Donc c'est comme dans certains de mes livres, j'ai donné des secrets d'alchimie, des secrets d'ésotérisme, et il y a des gens qui disent ah attends mais tu révèles la pierre philosophale tout. De toute façon, les gens ils voient ça, ils se disent bon c'est un truc. Ils comprennent pas que ça a une réelle application. De même, j'ai utilisé les fourmis. Pour écrire les fourmis, j'ai utilisé le plan d'une cathédrale. Et ça change quoi? Pour les gens, ils voient juste l'histoire. Moi, je sais qu'il y a une structure cachée derrière harmonieuse, mais ça change rien.
Et ça, les gens le savent, l'ont analysé.
Maintenant, ils le savent.
Ouais, d'accord. Tu crois que ça peut se retrouver? Je veux dire, si quelqu'un ne le sait pas, ou même si quelqu'un le sait, est-ce que en relisant les fourmis, je pourrais reconstruire cette cathédrale? Faudrait
que... Non.
Non.
Parce que c'est la version de 1500 pages, et mon éditeur a été d'accord pour sortir le livre, mais si je ramène à 350 pages.
D'accord.
Donc la version réduite, je n'ai pas pu reproduire. Enfin, j'ai gardé, c'est la version réduite, mais elle a pas toute l'harmonie dans les formes, le nombre d'or, tout ce que j'avais mis dans la version totale.
Il n'y a pas l'orgue ni le toit, quoi.
Non. Il n'y a pas l'ordre.
L'orgue ni le toit. L'orgue dans une cathédrale.
Ah oui, j'imagine
qu'il y a un orgue de l'instrument.
Et il y avait même une autre chose que j'avais mis dans la version 1500 pages, c'est que toutes les premières lettres de toutes les phrases donnaient une autre histoire.
Incroyable.
C'est une technique qui s'appelle l'acrostiche.
Oui, d'accord.
J'ai mis 12 ans à l'écrire, donc j'avais du temps pour faire ce genre de petit jeu.
Et tu l'as réécrit autant de fois que les autres romans dont tu parlais tout à l'heure ou...
Non, les fourmis, je l'ai écrit 100 fois, beaucoup plus.
D'accord.
Sur 12 ans, avec 10 pages par jour. Ça m'a permis de le faire plusieurs fois.
D'accord. C'est intéressant cette dynamique, cette gymnastique. Moi, j'avoue que je me suis dit en début d'année que j'aimerais écrire un peu plus, mais je crois, alors là, pour le coup, vraiment pas avoir de grand talent à l'écrit. Je suis très bavard, donc j'ai choisi le podcast, en l'occurrence. Mais c'est pour ça que ça m'intéresse particulièrement de te parler aujourd'hui, parce que justement, si moi, je me dis l'année prochaine, je vais écrire un bouquin.
Ouais.
Si t'as des je sais pas, 3 conseils, 5 conseils, 2-3 trucs.
Tout d'abord, il y a un truc tout nouveau, c'est que donc là on est mercredi.
Ouais.
Et tu me fais l'interview alors que samedi j'ai fait mon premier masterclass qui a été extraordinaire, à savoir que j'ai rempli la salle, il y avait 150 personnes. Et on a continué après dans le jardin public parce qu'on a dû quitter le théâtre.
D'accord.
Et j'ai fait une sorte de podcast. Non, pas de podcast. J'ai fait une sorte de PowerPoint, excuse-moi,
oui.
Dans lequel j'explique comment tous mes trucs de cuisinier, comment construire les romans,
d'accord.
Comment faire un plan, comment faire des personnages, comment faire une intrigue, comment faire du suspense,
d'accord.
Comment faire une chute, comment faire un titre, comment l'amener à un éditeur. C'est-à-dire tout ce que j'ai appris, tout mon domaine d'expertise.
Tous tes secrets, ouais, d'accord.
Voilà, je révèle. En tout cas, tout le savoir-faire qui me semble permettre de gagner du temps à ceux qui ont envie de le faire.
Mmh.
Et débloquer le prof de français ou l'envie d'avoir le prix Goncourt qui fait que, à force de vouloir l'excellence, en fait, on fait rien du tout. Donc, je leur dis, faites.
Complètement d'accord.
Trouvez une sorte de rythme pour faire un livre sympa, sans plus d'ambition. Et après, vous verrez à le transformer en livre extraordinaire. Mais déjà, allez jusqu'au bout.
Il y a un dans ces trucs d'entrepreneurs un peu à la mode en ce moment, on a différents dictons et il y en a un en anglais qui dit « done is better than perfect ». Donc, le fait est mieux que le parfait, quoi.
Et c'est exactement. Vrai que... surtout en France, on a une culture, une vénération du verbe et de la littérature avec nos grands auteurs, notre panthéon. Et du coup, quand on écrit, on se dit « ah, j'arriverai jamais à faire aussi bien que... » Non, il y a un moment... eux, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont osé y aller et ils n'ont pas été bloqués par leurs prédécesseurs. Donc, il faut y aller et faire taire le juge, le perfectionniste, celui qui désire aller dans les émissions de télé et avoir le prix Goncourt, qui sont les personnages intérieurs qui bloquent tout et qui empêchent d'avancer. Je pense qu'il y a un tiers des Français qui ont touché de près ou de loin le manuscrit et l'envie d'écrire. Oui. Et ce qui a fait la différence entre les professionnels et ces velléitaires, c'est que les professionnels sont allés jusqu'au bout. Et après, une fois qu'ils ont été jusqu'au bout, ils l'ont envoyé aux éditeurs. Et après, une fois qu'ils ont eu leur lettre de refus, ils ont recommencé jusqu'à y arriver. Donc,
si
je devais donner 3 conseils, le premier serait de tenir bon. Non, de se lancer. Deuxième, de tenir bon. Le troisième, c'est d'aller jusqu'au mot fin. Enfin, je rajoute en quatrième, c'est maintenant que j'ai fait ces masterclass pour aider les gens à écrire des livres, de venir à ces masterclass et on peut, enfin, en général, je communique dessus sur mon site bernardverber.com. Mais là, j'en ai fait, donc, celui de samedi ayant tellement bien marché, ils voulaient tous, que ça se reproduise ou qu'on continue. Donc, je vais en refaire un, probablement du côté de la première semaine de juillet. Et un masterclass, oui, à Paris.
D'accord.
Ça sera probablement de 4 heures avec une coupure au milieu dans lequel je propose aux gens en direct de construire leur petite histoire tous. Mais c'est pas un atelier d'écriture. C'est-à-dire après, on va pas lire le truc. Mais ils vont tous fabriquer une idée, un développement, une chute, un titre, une première phrase, une dernière phrase. Et ça, c'est ce qui s'est passé samedi. Et j'ai vu, ils étaient tous contents, ils avaient tous envie du coup d'écrire des romans. Ça les a débloqués de tout ce qui, de, ça, c'est relâché le frein à main. Ça a débloqué de tout ce qui empêche d'avancer, voilà.
Alors j'ai vu aussi, pour faire aussi un peu de promo, parce que tu parles de ton site, mais j'ai vu aussi que tu avais une grosse communauté sur Facebook, donc et que tu parlais un peu de ces masterclass aussi sur les réseaux sociaux. Ce qui m'intéresse, tu vois, sur ce podcast, c'est vraiment de voir aussi donc cette génération de gens qui font les choses, qui se lancent par eux-mêmes. Et quand tu me donnes ces 3 points, je me dis que ça s'applique à beaucoup de choses, c'est-à-dire se lancer, persévérer et aller jusqu'au bout. Je veux dire, quand tu es chanteur, tu es entrepreneur, tu es mais ça peut même être sur des hobbies. Enfin, on n'est pas obligé d'être professionnel sur tout ça, mais au moins d'aller de la persévérance est très importante. Évidemment, le lancement est indispensable, sinon tu vas nulle part. Mais aller jusqu'au bout.
Et je vais rajouter une autre chose, c'est que vu qu'il y a beaucoup de monde qui sont, par exemple, sur le marché de la littérature, il faut pas avoir peur de se démarquer. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, pas faire pareil que les autres. On peut avoir des maîtres en écriture. Moi-même, j'ai mes maîtres, les auteurs qui m'ont fasciné. Mais il y a un moment, ce qui va faire la différence, c'est l'originalité. Alors, la tentation souvent de l'écrivain débutant, c'est de faire aussi bien qu'un livre qui a déjà marché. Donc, on va faire une copie du Da Vinci Code, ou 50 secondes de gris, ou du dernier Goncourt, ou du dernier auteur à la mode. Et c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Il faut trouver sa différence, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Et une fois qu'on a trouvé sa différence, on la cultive et on l'impose. Il y avait aucun livre sur les fourmis. Et quand j'étais dans l'Observateur, tous mes collègues me disaient « Attends, les fourmis, ça intéresse personne. Tu devrais faire une histoire d'amour ou un polar. » Parce qu'ils étaient encore dans ce qui marche, c'est ce qui ressemble à ce qui a déjà marché. Et moi, je dis le contraire. Ce qui marche, c'est ce qui ne ressemble pas à ce qui a déjà marché. Et c'est votre différence qui fera votre réussite.
En tout cas, je pense que c'est au moins valable dans les énormes cartons. C'est-à-dire que, enfin, il est rare de... Tu peux peut-être marcher, mais peut-être pas marcher. Tu peux marchoter peut-être avec quelque chose qui est un peu un copycat, une inspiration. Oui. Et puis c'est juste moins gratifiant quand même, peut-être.
C'est gratifiant de faire quelque chose de nouveau.
Oui, c'est ça.
Maintenant, en général, le problème de la nouveauté, c'est que précisément, parce que c'est nouveau, les détecteurs de nouveauté ne marchent pas. C'est-à-dire que si vous faites un livre dans lequel il y a un sujet nouveau avec une forme nouvelle, vous n'aurez probablement pas de critique, ni de soutien de la profession, puisqu'ils sont habitués à tout le temps gérer les problèmes de la même manière. Donc pour eux, un ovni, c'est quelque chose d'invisible.
Un effet très moutonnier, oui, oui, bien sûr.
Ah oui, mais même, je vous racontais, quand j'étais au Nouvel Observateur, je voulais faire une nécrologie de Pierre Boulle au moment où il est mort. Et j'ai rencontré le directeur de la rubrique littéraire et je lui dis, je vais faire la nécro de Pierre Boulle. Et il me dit, c'est qui Pierre Boulle? Directeur de la rubrique littéraire. Alors je dis, le monsieur qui a fait le pont de la rivière Kouai et la planète des singes. Il me dit, ah bon, la planète des singes, c'est français? Je crois que c'était américain. J'ai pas osé lui dire, attends, tu veux pas aller à la fac ou lire des livres ou je sais pas, ou t'intéresser un peu aux livres. Et il comprend que dans mon esprit, c'est une aberration de ne pas connaître Pierre Boulle. Et il me dit, tu sais, ici, la rubrique, c'est surtout pour parler de nos copains écrivains, on parle toujours des mêmes. Mais il me l'a dit, c'était même pas une critique, c'était juste un constat. Il y a tellement de livres, on peut pas les lire tous, donc on parle que des copains. Et j'ai regardé, au bout d'un moment, ils me parlaient tout le temps que des mêmes auteurs qui sont leurs copains. Point barre. Alors, ça devient la rubrique de l'Obs.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu es connu et tu es le copain de beaucoup de journalistes littéraires, alors? Non.
Je suis connu, par contre, en dehors de la France.
Oui, connu, j'ai vu ça, oui, mais...
Non, mais en dehors de la France, parce que le système parisien, c'est même pas littéraire français, le système parisien étant complètement un système endogamique, c'est-à-dire c'est une bande de copains qui se renvoient en permanence la balle et ils ne s'intéressent à rien d'autre que leur propre tribu, ce que je comprends, mais ce qui est un peu dommageable pour le lecteur. Donc on peut communiquer pour les Français, par exemple, on peut communiquer normalement en Belgique, en Suisse, au Canada et des conquis de Paris en province. Parce que là, les journalistes lisent les livres et ils s'intéressent à ce qui n'est pas leur copain, puisqu'ils s'intéressent normalement aux livres qu'on trouve dans les librairies.
Je te trouvais particulièrement dur avec la France, mais c'est vraiment plus avec Paris, en fait. Et avec
Paris.
Oui, ouais, d'accord.
Mais ça vient d'un petit bug qui est que les critiques littéraires sont eux-mêmes écrivains. Donc, ils n'ont pas intérêt à parler d'un livre qui marche, qui est un concurrent qui réussit par rapport à eux, qui sont pas sûrs de réussir. Et... en fait, c'est comme une compétition de patinage artistique. Mmh. Les gens qui donnent les notes pour le patinage sont eux-mêmes patineurs et participent à la compétition. Donc, on va dire, il y a peu de chances qu'ils soient neutres. Mais pourtant, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, les types qui tiennent les rubriques littéraires dans les grands magazines sont eux-mêmes écrivains et sortent parfois des livres en même temps que vous. Donc, ils ont vraiment pas intérêt à dire du bien d'un bouquin qui est susceptible d'intéresser les lecteurs. Ils ont intérêt à parler, par contre, que des auteurs qui sont moins bons. Puisque comme ça, c'est des concurrents qui ne les gêneront pas.
Et donc, pour parler un peu de tous ces succès, parce que Les Fourmis, tu disais le premier, j'avais pas réalisé ça, donc le premier opus a pas si bien marché que ça.
Il a suffisamment décollé pour qu'il y ait une suite.
D'accord.
ce qui me suffisait.
D'accord, et la suite a fait décoller le tout. Ouais. En France et à l'étranger, parce que je crois que j'ai lu quelque part que t'étais une superstar en Corée ou en Corée du Sud ou dans plein d'autres pays probablement, mais
alors,
tu vendais
traduit,
plus qu'en France.
C'est traduit en 37 langues pour une raison simple, c'est qu'il y a des fourmis partout et que mon écriture, étant une écriture d'efficacité, c'est sujet, verbe, complément et on avance sur l'intrigue. Donc pour la traduction, c'était pratique et ça permettait d'être fidèle.
C'est quelque chose qu'on te reproche, ça, d'avoir une écriture trop simple ou trop...
Pour le milieu littéraire français, oui, mais parce qu'ils viennent des universités. Dans les universités, on leur a appris le culte des phrases longues. J'ai vu, il y a un auteur qui fait des phrases de 2 pages avec un seul verbe. Donc c'est un style. Pour moi, je respecte ça. Mm-hmm. Il doit y avoir le choix entre les deux, la forme et le fond.
Est-ce que tu lis des gens comme ça? Enfin,
oui.
Certains qui te plaisent beaucoup ou...
Oui, je lis les autres formes de littérature. Je ne suis pas fermé à ma. Mm-hmm. Ma catégorie de livres, mais je les lis en considérant que j'ai pas malgré tout envie de faire comme eux, parce que pour moi ce qui importe c'est une histoire complexe et une forme simple.
D'accord.
Et après il y a le choix d'une forme complexe et une histoire simple, mais c'est pas mon créneau, c'est pas le créneau où je m'amuse.
D'accord. Voilà.
Moi, c'est les idées, trouver des nouveaux questionnements, proposer des nouveaux territoires d'exploration, comme le sommeil, comme les thanatonautes, donc c'est le monde des morts, les fourmilières ou les chats.
Et du coup, le fait que ça se traduise, c'est juste un état de, enfin, une conséquence. Tu t'as pas fait ça pour ça.
Fait pour ça. Mais quand j'écrivais, je me disais, j'écris pas que pour la France. J'écris pour que ça, mes livres soient diffusés dans le monde entier. Mais et mon souci, c'est résister au temps. Pour moi, le seul vrai grand critique, c'est le temps. Les œuvres anodines ou les livres qui se ressemblent sont peu à peu oubliés et ne survivent que les livres dans lesquels il y a de l'innovation et il y a de l'originalité. Et pour revenir à ta remarque de tout à l'heure, en effet, il y a deux pays dans lesquels il y a une détection qui est encore plus forte qu'en France du public, c'est la Corée du Sud et la Russie, parce qu'ils ont un public très jeune qui s'intéresse au futur. Et surtout, dans les deux pays, j'ai un réel soutien de la presse. C'est-à-dire qu'en Corée du Sud, quand mon livre sort, il est chroniqué partout. Et j'ai une réelle visibilité. Et en Russie, pareil.
Et donc, tu y vas à chaque fois, tu fais un lancement.
J'y vais, mais même quand j'y vais pas, les journalistes ont compris ce que je faisais. Tout simplement parce que ces deux pays sont tournés vers le futur. En France, il faut bien comprendre que la littérature est verrouillée par une vingtaine de personnes qui veulent à tout prix qu'on vive dans... le souvenir des vieux auteurs prestigieux du siècle dernier, qui sont à leurs yeux les seuls auteurs valables. Mais on peut pas tout le temps vivre dans la nostalgie, la mélancolie et l'autofiction. Il y a un moment, il faut un tout petit peu créer des choses nouvelles, proposer de nouvelles voies, utiliser son imagination.
Et être traduit, t'as pas l'impression de lâcher un petit truc, je veux dire.
Je suis pas sûr que les traductions soient bonnes.
Ouais, c'est ça.
Ce que je suis sûr, c'est que par moment, en tout cas pour la Russie et la Corée, ils sont très motivés. L'une des pires catastrophes de traduction que j'ai eues, c'est le Japon, où mon éditeur japonais a mis des poésies de Rimbaud au milieu de mon texte.
Oh merde.
Parce qu'il s'est dit, tant qu'à découvrir Verber, autant qu'il découvre en même temps Rimbaud. Mais il a mis tellement qu'on comprenait plus du tout mon texte.
D'accord.
Et j'ai appris plus tard, mais bon. Ça fait partie des inconvénients de la traduction. D'accord. Mais ça se peut aussi qu'il y ait des traductions qui soient meilleures que mon texte.
Et quand tu, du coup, t'as vendu combien de tu sais à peu près, c'est un truc que tu suis?
Alors, oui, je le suis parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de gens me lisent. Donc là, actuellement, en mélangeant, bon, par exemple, en France, j'ai 10 millions de lecteurs de poche. Ça, c'est le chiffre sur lequel ils ont communiqué les livres de poche. Donc ensuite.
10 millions de lecteurs de poche, c'est au total sur tous tes romans?
Sur tous mes romans, d'accord, ça fait 10 millions de livres vendus.
Fou. Ouais.
Ensuite, je pense qu'il doit y avoir entre la Russie et la Corée 10 millions aussi. Non. Bon, en fait, en tout, ça fait 30 millions.
30 millions de lecteurs. De voilà. Poche ou au total?
Au total.
Total.
Au total, tous les pays plus tous les pays plus tous les formats. Voilà.
D'accord.
C'est un peu plus de 30 millions. La part numérique est ridicule.
D'accord.
Quand, par exemple, le dernier livre... Je dois être à 250 000. Il doit y avoir 10 000 de numérique.
De Kindle ou de choses comme
voilà,
ça.
Voilà, de numérique.
Ouais. D'accord, c'est marrant parce que sur justement un sujet comme le tien, on pourrait se dire que t'as peut-être des gens qui ont plutôt une appétence à...
Je crois que le numérique marche surtout pour le polar noir très classique. Et ce que je fais étant à cheval entre la philosophie, la science-fiction et les littératures classiques et un peu de polar, il n'est pas identifié.
D'accord, c'est intéressant. Et quand tu te retournes comme ça, il y a des bouquins sur lesquels tu te dis, enfin, celui-là il est quand même moins bien que les autres, ou il y a des choses où.
Alors j'ai
t'as connu... eu que des gros succès. T'as
non,
eu...
pas du tout. J'ai sorti Les Fourmis qui a eu une petite attention. Puis après, le jour des fourmis qui a eu une attention un peu plus grande de la part des lecteurs. Et après, je sors Les Thanatonautes. Peut-être à cause du titre. En tout cas, c'était un échec. Voilà, pour donner un ordre d'idée, les Thanatonautes, ils ont dû être tirés à 70 000 exemplaires et on a dû en vendre 10 000. Donc, ce qui fait à 60 000 qui partent au pilon, on appelle ça un échec. Sur les Thanatonautes, par exemple, il n'y a pas eu un seul article dans aucun média, aucune radio, aucune télé, c'est-à-dire pas un seul média qui en a parlé. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça y est, j'ai fini. C'est les fourmis, le jour des fourmis, succès, Thanatonautes, échec. Donc j'ai fait la suite, La Révolution des Fourmis, nouveau succès.
D'accord.
Je me dis, zut, je suis condamné à faire des fourmis. Et là, après, il a fallu que je fasse Le Père de nos Pères, qui a été un succès aussi. Et je me suis dit, ouf, il m'autorise, les lecteurs m'autorisent à parler d'autres choses que les fourmis. Alors, après Le Père de nos Pères, je me suis dit, j'aimerais bien faire la suite d'Etana parce que j'aime bien ce livre. Et j'ai fait L'Empire des Anges, qui a été un succès aussi. Et au moment de L'Empire des Anges, les gens ont découvert l'Etana. Et maintenant, au bout de 22 titres, les gens me disent leur livre préféré, c'est Etana Tonote. Et Etana Tonote, ben, je vais juste dire, il est arrivé trop tôt, avec un titre un peu trop bizarre, et un sujet, donc la conquête du pays des morts, trop...
Fou.
Ouais, un challenge trop fort. Et, mais je suis content de l'avoir fait, mais j'ai failli tout arrêter à cause de ça. J'ai connu d'autres échecs depuis. Là, par exemple, sur Troisième Humanité, le premier a bien marché, le deuxième a marché la moitié du premier, et le troisième la moitié du deuxième. Donc, globalement, c'est un échec. De toute façon, sur 22 livres, je peux pas avoir 22 réussites.
J'imagine.
Mais les chats trouvaient un public plus facilement, peut-être du fait du thème. Quand on dit Troisième Humanité, on sait pas de quoi on parle. Par contre, quand on dit Demain les chats, on comprend tout de suite que c'est une vision de chat sur notre monde.
Écoute, oui, donc c'est le dernier que j'ai lu. Moi, j'ai commencé par pas les Thanatonautes. J'ai lu en premier Le Papillon des étoiles, c'est ça, hein. Et après les Thana, et donc maintenant Demain les chats. J'avoue que Le Papillon des étoiles, j'avais vraiment adoré. Et alors, je sais pas si ça fait partie des gros succès, mais je me souviens avoir passé un énorme moment, oui.
Ouais. Merci, c'est un livre que j'ai écrit alors durant le tournage de mon film qui s'appelait Nos amis les humains, et j'étais tellement en stress durant le tournage, c'était pas angoissant mais il fallait surveiller tout le temps, c'était épuisant, il fallait surveiller tout le temps tout. Pour le soir, pour me détendre, j'écrivais Le Papillon des étoiles, et ce livre m'a reposé, c'est-à-dire pour me reposer du travail, je travaille.
D'accord.
Mais je l'ai écrit très vite, de manière très simple. Ça fait longtemps que j'avais cette idée d'utilisation de la propulsion photonique, donc la lumière comme sur des voiliers pour voyager dans l'espace, et j'avais fait un article dessus quand j'étais journaliste scientifique. Donc du coup, j'ai utilisé cet article pour explorer non plus le système solaire, mais un autre système solaire, et voir comment l'humanité pourrait à nouveau s'aimer. Et c'est un livre pour moi facile à écrire, écrit dans la joie. Et alors là, j'ai pas fait 20 versions. Là, ça, j'ai dû en faire 3 ou 4, parce que dès la première version, ça fonctionnait, c'était fluide, ça fonctionnait bien.
C'est marrant. Du coup, c'était en même temps qu'un autre projet. C'était pas aux mêmes horaires. Du coup, c'était pas et ça t'a paru facile, et il a eu un gros succès.
En général, plus je descends mes ambitions, plus les lecteurs sont à la réception. Peut-être que par moment, parce que j'avais mis une très forte ambition sur Troisième Humanité, j'ai visé trop haut. C'est-à-dire, je voulais raconter comment aller évoluer toute l'humanité dans les années à venir, et ce que je racontais était vraiment basé sur des dernières découvertes en biologie, en électronique, en évolution, en politique, et c'était tellement difficile, compliqué à mettre en place, et que peut-être j'ai mis la barre trop haut. Mais j'espère qu'un jour les gens redécouvriront Troisième Humanité et comprendront ce projet-là. Mais c'est un projet, je pense, qui pourrait même être utile aux politiciens, parce que c'est une vision de là où on va en toute logique. Et là où on va en toute logique, il va y avoir des enjeux déterminants, notamment la surpopulation, la pollution, l'accès à l'eau. Toutes ces choses-là étaient évoquées en Troisième Humanité. Et le rapport, la guerre des sexes, la guerre des religions, et toutes ces choses-là étaient présentées d'une manière très nouvelle, et je pense peut-être un peu trop nouvelle.
Et très vite, le rapport à la machine, toi, c'est quoi ta vision là-dessus, du coup? C'est vraiment quelque chose de très personnel qui m'intéresse beaucoup, mais quelle est, selon toi, la machine va-t-elle dominer l'homme?
C'est pas la machine, c'est l'intelligence artificielle l'enjeu. Les machines maintenant, donc c'est pratiquement des objets qui fument pas, qui font pas de bruit, qui vibrent pas, comme cet ordinateur. Par contre, l'intelligence artificielle, elle va être en fonction de la manière dont... Les résultats vont être liés à la manière dont ça va être programmé. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire du mal avec l'intelligence artificielle, ça peut donner Matrix.
Mais il y en aura forcément.
Oui. Donc, à ce moment-là, il y aura toujours la guerre du bien et du mal. de ceux qui veulent utiliser la technologie sans conscience et ceux qui veulent l'utiliser avec conscience. Et ça fait partie des enjeux pour nos enfants. Mmh. L'intelligence artificielle, j'étais en Corée il y a quelques temps, et en Corée, ils considèrent que l'intelligence artificielle est la plus grande menace contre l'humanité.
Je partage pas mal cette opinion. Du coup, ce que tu dis, c'est que il y aura peut-être une intelligence artificielle blanche contre une noire. Enfin, oui. Je parle pas de couleur de peau.
Comme Internet. Il y a le dark Internet et Internet sert à diffuser des bonnes idées et sert à diffuser les idées les plus atroces. Après, c'est les humains qu'il y a derrière qui sont importants. Mais on peut pas tenir responsable l'outil de la manière dont il est utilisé. Un marteau peut servir à construire une cabane ou à fracasser un crâne. Mmh. Est-ce que c'est la faute du marteau s'il y a quelqu'un qui a été tué? Non, c'est la faute de l'humain qui a pris la décision d'utiliser le marteau plutôt que pour faire la cabane, de l'utiliser pour tuer. Donc l'intelligence artificielle permettra de tuer et l'intelligence artificielle permettra de résoudre des problèmes et de pacifier. Maintenant, comment tenir ça? Isaac Asimov avait posé les trois lois de la robotique. Un robot ne doit jamais tuer, un robot doit obéir à l'être humain. Et si jamais les deux premières lois sont réalisées, un robot peut essayer de préserver sa propre vie. Mais ces trois lois de la robotique ne sont nulle part dans aucun des robots. Mmh. Un missile lancé pour détruire une maison ou un groupe de gens, a priori, c'est un robot. C'est juste que c'est pas la vision android du robot, mais c'est une machine avec de l'intelligence qui va changer sa trajectoire pour faire un maximum de morts humains.
Oui.
Et il n'y a pas les trois lois de la robotique à l'intérieur.
J'aurais tellement des milliers de questions à te poser avant d'arriver là-dessus. Je vais en avoir deux toutes petites dernières. Une qui sera plus sur l'aspect business. Aujourd'hui, tu as donc bien réussi. Est-ce que tu as réinvesti? Est-ce que tu es un chef d'entreprise?
Non,
d'accord.
Je me suis fait entourer de gens qui m'ont donné des conseils, mais a priori, ces conseils n'ont pas été efficaces. Je crois que je suis très mauvais dans la gestion de mes affaires. Et pour moi, dès le moment où je mange et où j'ai mes ordinateurs, je suis pas dans la gestion. Je sais, il y a des auteurs qui savent gérer ça vachement bien et tout. C'est pas mon talent. Mais ce que me disent, ce que je vois par exemple dans le monde de la comptabilité pour auteurs, en fait, la plupart ils quittent la France. Point barre.
Oui.
D'ailleurs, parmi les best-sellers, je crois que je suis un des rares qui suis resté en France. Donc, je suis vraiment un couillon. Tous les autres sont partis. Et évidemment, le système français n'est pas fait pour encourager, en tout cas, d'écrire des best-sellers. C'est pas fait pour cette économie-là.
D'accord.
Donc moi, je manque de rien, mais en tout cas, l'essentiel de ce que je gagne part aux impôts, ça c'est sûr.
Et alors, ma toute dernière question avant de finir. Si tu avais, j'allais dire, souvent je propose 7, 10 ans, mais il y a 10 ans, tu avais déjà quand même bien réussi. Si tu avais un conseil à te donner tes 20 ans,
voir ça comme un marathon et non pas comme un sprint. C'est-à-dire, quand j'ai sorti Les Fourmis, je croyais que c'était juste un livre et mon envie, c'était juste d'être publié. Et maintenant, j'ai compris, il faut organiser cette règle que j'ai fait, c'est-à-dire un livre tous les ans et tenir la régularité.
Peu importe s'il y en a des mieux, des moins bien, etc. Tu veux...
Ah non, pour moi, chaque livre que je fais, c'est le mieux que tout ce que je peux faire. Je ne renie aucun de mes livres.
D'accord.
Je n'ai pas l'impression d'avoir échoué dans aucun des livres. C'est juste, il y a des livres qui ont trouvé leur public et d'autres qui ne l'ont pas trouvé. Ça, c'est autre chose.
Mmh.
Dans chaque livre a sa raison d'être et je ne renie aucun de mes enfants.
D'accord.
Le conseil que j'ai à donner, c'est la régularité. Si on échoue sur un livre, continuez malgré tout. Ce qui m'est arrivé avec l'Etana, il faut continuer. Et voir ça comme un marathon et pas un sprint. Je reviens à cette idée qui est essentielle. Trouver un souffle, trouver un rythme et après ne pas dépendre, surtout pas dépendre des médias littéraires qui eux fonctionnent sur avec des 3 L. Léchage, lâchage, lynchage. Léchage quand on découvre un nouvel auteur. Lâchage pour pas faire croire que cet auteur, on va tout le temps lui cirer les pompes. Et lynchage au cas où ils réussissent malgré tout. Moi, j'ai échappé aux trois parce que étant dans un domaine qu'ils croient être du fantastique, de la science-fiction, ils ne m'ont jamais lu. Donc c'est comme ça, c'est réglé. Mais par contre, je sais qu'ils m'aiment pas. De temps en temps, ils disent « Ah, c'est pas normal, ce type ait autant de lecteurs. C'est quand même de la littérature pour les jeunes ou pour l'étranger. » Enfin, ils ne comprennent pas. Mais la plupart n'ont pas ouvert le livre. Et je me suis retrouvé plusieurs fois dans des émissions, notamment de radio, avec des chroniqueurs qui disaient du mal de mes livres et qui finalement ont avoué ne l'avoir jamais ouvert. Donc, tout à l'heure, je vous disais, j'écris pour le temps, mais mon principal ennemi, c'est le manque de curiosité. Il y a les gens qui se disent « Ah, ça a l'air bizarre, donc j'y vais pas », ou « Ça a l'air de la science-fiction », ou « Ça a l'air de fantastique ». Et mon soutien, c'est les profs de français, les libraires et les lecteurs qui sont un peu curieux et qui veulent voir s'il n'y a pas autre chose qu'en dehors de tous les trucs habituels.
Ça a même une toute dernière question, promis.
Okay.
Le parce que du coup, c'est vrai que tu dis que tu renies pas, c'est important. Mais j'ai peut-être pas d'aversion pour l'échec, mais j'aime bien en tirer des. Est-ce qu'il y a des choses dans tout ça, dans ces 20 dernières années, où tu dis, je me suis quand même bien foiré là-dessus et j'en ai tiré une leçon et tu pourrais partager ou il y a rien qui te comme ça te saute aux yeux.
Alors, si, moi j'ai eu des échecs tout le long de ma vie. Là, j'ai raté mon passage en section scientifique. Je me suis fait virer de Nouvel Observateur.
C'est vrai.
J'accumule les articles.
Je vois tellement ça comme des étapes que je vois plus ça comme un
échec. Pas gentil de gens qui n'ont pas jamais lu mes livres. Il y a eu des projets de cinéma qui n'ont pas abouti. Mon film n'a pas abouti. Ma pièce de théâtre n'a pas trouvé suffisamment de... Enfin, elle a joué un an, puis après, elle n'a pas trouvé suffisamment de spectateurs dans sa deuxième série. Non, j'ai connu plein d'échecs.
Et tu persévères pas dans ces chemins?
Si.
D'accord. Sur le
j'ai
film...
J'ai fait une deuxième pièce. Le film, ça coûte très cher, donc ouais. Il faut trouver un producteur qui est prêt à jouer le jeu. Et là, j'ai envie de... Je privilégie le rapport humain. Le premier film, j'ai fait avec un type extraordinaire qui est Claude Lelouch, qui m'a produit. Donc, j'ai réalisé le film. Donc, c'est une rencontre extraordinaire. Maintenant, j'attends d'autres rencontres comme ça. Mais je vais pas aller supplier pour faire ça. Heureusement, ma réussite littéraire me permet de ne pas dépendre du cinéma ou du théâtre pour vivre. Maintenant, j'ai d'autres ambitions. Là, je monte dans les masterclass. J'essaie de diffuser mes connaissances en littérature pour donner envie à d'autres d'écrire. J'espère ouvrir la voie à littérature d'imaginaire pour qu'il n'y ait pas que cette littérature d'autofiction qui utilise tous les médias en France et qui empêche de voir la littérature d'imaginaire. Moi, je vois pas ma vie comme une réussite permanente, mais je vois en tout cas que j'ai trouvé le chemin dans lequel je suis bien et j'ai envie de souhaiter à tout le monde de trouver son chemin, sa voie. Et une fois qu'on a trouvé sa voie, ben il faut poursuivre quoi qu'il arrive, même s'il y a des chiens qui viennent aboyer et tenter de vous mordre, la caravane doit continuer d'avancer et il faut se fixer des objectifs personnels, ne pas dépendre du regard des autres ou de tous ces gens qui critiquent sans savoir juste parce que vous faites un truc hors norme. L'avenir est aux choses hors normes et tous les gens qui ont laissé leur empreinte sont des gens qui sont allés contre le système et qui ont dénoncé le système en disant qu'il était vétuste. Parce que le système, par définition, c'est une machine qui ne tient qu'à se maintenir au pouvoir et qui cherche le pouvoir mais qui ne cherche pas à faire avancer. Donc voilà, donc le conseil à donner, c'est la persévérance, l'originalité et puis ne pas dépendre du regard des autres. Et puis si on trébuche, ben on se relever et continuer, parce que ça, on a forcément, si on a commencé à prendre le chemin, c'est qu'il y a une raison et que ce chemin va nous amener quelque part et que c'est forcément quelque part d'intéressant.
Merci Bernard Werber. On te retrouve donc avec un livre qui est Demain les chats, je le regarde là-bas au fond.
Ouais.
On te retrouve sur bernardwerber.com, sur Facebook notamment, peut-être sur Twitter.
Oui, je suis très actif sur Facebook, sur Twitter, parce que je crois que ce sont des outils pour maintenir la tribu et entretenir le rapport à la petite famille des lecteurs.
Voilà, donc on mettra les liens de tout ça sur le podcast. Je te remercie infiniment, merci. C'était passionnant et vraiment dans la lignée de ce que je veux faire avec ce podcast. À très bientôt.
Merci à toi Mathieu, et bonne chance pour ton podcast.
Salut. Voilà, J'espère que vous avez aimé cet épisode. Bernard Werber a été vraiment très sympa. Je l'ai un peu brusqué parce que il m'avait donné nettement moins de temps, mais connaissant la durée de ce podcast et notre attachement grandissant à un podcast qui va sur le fond des choses, j'ai un peu tiré sur la corde. Donc merci Bernard pour ce temps à rallonge. J'ai vraiment beaucoup plus apprécié cet échange, les similarités qu'on peut voir aussi avec un romancier des entrepreneurs, comme je le disais en intro. J'espère que ça vous a plu. J'ai d'autres romanciers à venir, potentiellement des sportifs également. N'hésitez pas à me faire des feedbacks, à me proposer des personnes que vous avez dans votre entourage, une fois de plus, et à vous abonner au podcast. J'espère que tout ça vous plaît. En tout cas, vos messages à chaque épisode me font chaud au cœur. Je vous en remercie infiniment. Génération Do It Yourself, épisode 6, c'est fini. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.